France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le goût de l'éloquence, des années heureuses, le prestige dont jouissent les grands orateurs. Joseph-Paul Boncour était l'invité, l'orateur, d'une série de tribunes de Paris à la fin des années 50. On y recueillait en quelque sorte ses mémoires, les mémoires de celui qui avait collaboré avec les plus grands orateurs de son époque, Waldeck-Rousseau, Viviani et Briand, sans parler de Jaurès. Lui, c'était le dieu. Mais en parlant de Clémenceau, évoquer le tigre, un autre surnom lui sera donné. Ce peut-être, ce serait aujourd'hui l'affaire d'un historien. Et des historiens. Mais le 1er février 1957, sur la chaîne nationale, il y avait encore des témoins. Et donc, un témoin du Clémenceau qui regardait l'Allemagne dans les yeux, bien avant la guerre de 14.
Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Une émission d'Émile Dana et Raymond Thévenin. Nous poursuivons ce soir la diffusion des souvenirs politiques du président Paul Boncour. Aujourd'hui, quatrième partie, Clémenceau débouche. Raymond Thévenin va donner la parole au président Paul Boncour.
Dans notre dernière conversation, monsieur le président, nous en sommes restés à la mort de Waldeck-Rousseau. Cette mort devait évidemment être une perte considérable pour la politique française. Que s'est-il passé ?
Après le grand ministère de Waldeck-Rousseau et la lutte anticléricale du petit Percombe, on revint au ministère à ses acolytes, jusqu'au jour où sur cette grisaille apparut Clémenceau. Il y a dans l'iconographie de Clémenceau, outre le beau portrait de Manet, un tableau de Raffaelli, si je ne me trompe, qui le représente dans une salle de Belleville,
oui,
où Gambetta avait sommé les esclaves ivres de rentrer dans leur repère.
Oui, c'est une gravure que l'on trouve dans les manuels d'histoire, monsieur le président.
Il est là, tout seul, devant la foule, petit, tout en muscles, redingote courte, la mode d'alors, la figure guillotinée par le col blanc, le visage osseux, faisant face à l'orage, taureau sortant du taurus pour entrer dans l'arène. Oui, taureau, plutôt que tigre, dont par forfanterie, il acceptait volontiers l'épithète. Blanchi et meurtri par tant d'aventures, c'est encore l'impression qu'il lui fit quand il déboucha au pouvoir à l'âge de 65 ans.
Comment avez-vous fait sa connaissance, monsieur le président ?
Je le connus à ce moment-là.
Au moment où il a pris le pouvoir ?
Oui, oui. Parce que j'étais, comme je le dirais tout à l'heure, directeur du cabinet de Viviani et que j'étais souvent l'intermédiaire dans les colères de Clémenceau contre Viviani, etc.
Ah, c'est pour ça. Je vous en prie, je m'excuse de vous avoir interrompu.
Du tout. Il arrivait au pouvoir après un stage de sagesse de quelques mois, que le sage monsieur Fallière, homme très fin, et sous lequel le jeune ministre du Travail en 1911, j'eus l'occasion de délibérer et de l'apprécier, lui imposa dans un ministère, présidé par un excellent homme, bon républicain, monsieur Sarrien, mettant donc disait qu'il était une borne à laquelle on attachait le char de l'État quand on ne voulait pas qu'il allât trop vite.
C'était une bonne définition.
Installé place Beauvau, Clémenceau tena les préfets d'une poigne assez rude.
Vous me permettez, monsieur le président, l'anecdote que l'on raconte, vous savez, elle est fameuse, de Clémenceau se trouvant dans le salon de madame Sarrien, à qui l'on demandait « Que prendrez-vous ?» en lui tendant des boissons, et à qui il a répondu l'intérieur. Est-ce qu'elle est exacte ?
Ah, je ne sais pas.
Vous n'y étiez pas là.
Elle est très curieuse. C'est bien possible. C'est bien possible. Ça fait bien partie d'esprit de Clémenceau. Esprit dont il témoigna un jour dans une circonstance assez scabreuse. Il était en Amérique, il était marié, et il trouve sa femme en conversation avec un monsieur. Le monsieur lui dit « Monsieur, je suis à vos ordres. » et Clémenceau prenant son chapeau dit non, c'est à ceux de madame qu'il faut rester.
Très bien, en effet.
Donc je dis qu'installer place Beauvau, il mena les préfets d'une poigne assez rude. Comme Valdecrousseau, mais avec des moyens différents, pendant 4 ans, il fut le maître de la République. Ce qui prouve que même en régime parlementaire, la longévité ministérielle peut exister quand il se trouve des gens ayant suffisamment de prestige, d'autorité et de volonté pour l'exercer. Vieux, mais plus jeune que beaucoup de jeunes, arrivant tard au pouvoir, il ne voulut pas prendre simplement une suite. Il se proposa de frapper les esprits jusque dans la composition de son ministère. Dreyfusard intransigeant, allant toujours jusqu'au bout de sa pensée, aussi peu militariste qu'il était ardent patriote, n'aimant pas l'état-major jusqu'au jour où il en fit l'instrument de sa victoire, et où devant une chambre impatiente, il le couvrit courageusement, y prit comme ministre de la guerre le général Picard, qui, initiateur de l'affaire Dreyfus, en avait été après Dreyfus la principale victime. Par une autre mesure, autrement importante, il créa le ministère du Travail.
En effet, c'est lui qui a créé le ministère
du Travail. L'ex-renouvelé de la Révolution 1848, ça a été créé, fait par lui. D'un choix incontesté, il y a la Viviani. À son tour, Viviani, donnant satisfaction au syndicat, qui voulait bien se souvenir que j'avais doctriné le syndicalisme dans ma thèse de jeune docteur en droit, me choisit comme directeur de cabinet. Quel souvenir j'ai gardé de cette jeune équipe serrée autour de son jeune chef. Comme il arrive souvent en France, on avait créé le ministère du Travail, mais rien n'avait été prévu.
Bien sûr.
Même pas les crédits.
Bien sûr.
Nous dûmes aller nous-mêmes acheter notre papier chez l'épicier du coin pour consigner nos premières décisions.
Où étiez-vous installés ?
Nous étions installés, faute de l'ancien archevêché qui nous était affecté mais qui n'était pas encore prêt, à l'ancienne direction des cultes. Vous voyez que nous étions voués aux édifices désaffectés.
Absolument, et religieux.
C'était bien différent de l'ancienne direction des cultes. Mais quand les ministres passent, les huissiers restent membres permanents des administrations publiques qui tirent la physionomie, la philosophie des régimes et maintiennent les traditions. Ces braves gens étaient là, déconcertés, eux qui n'avaient jamais entendu que le pas feutré des évêques par la brutalité des délégations ouvrières. Mon vieil huissier qui portait un nom de roman russe s'appelait Dejrine, levait les bras et me disait « Oh, monsieur le directeur, comme ils sont mal élevés !» Car les délégations ouvrières avaient bien compris qu'elles étaient là, chez elles. Je me souviens en particulier d'une délégation des plus tapageuses conduite par le secrétaire général du syndicat des électriciens, Patou, qu'on appelait le roi Patou, parce qu'une nuit, il avait plongé Paris dans l'obscurité.
Oui, là, il était célèbre.
Or, Viviani, quelque temps auparavant, voulant donner une réplique à l'apostrophe de Jaurès, vous leur avez enlevé la vieille chanson qui berçait la douleur humaine, s'était écrié un peu romantique, « Nous avons éteint au ciel ensemble et d'un geste magnifique, des étoiles qui ne se rallumeront plus. » Forain, qui avait une plume acerbe, fit un dessin représentant la délégation des électriciens, avec à leur tête
Patou,
leur chef, s'inclinant devant Viviani et disant « Monsieur le ministre, est-il content de nous ?»
Ah oui, en effet.
Il y eut les émeutes de Draveil, les grèves, les houillères du Pas-de-Calais, les inventaires, suite de la loi de séparation, les émeutes viticoles, Clémenceau fonçait toujours tête baissée comme le taureau. Ça nous donna des discours magnifiques, dont le grand duel Jaurès-Clémenceau dura 3 jours. On ne supporterait plus ça maintenant. Les discours sont moins longs, mais il y en a davantage. Et ils sont moins bons.
Et ils sont moins bons. C'est peut-être les orateurs qui sont moins bons, monsieur le président.
Je crois. Je m'occupais surtout de ceux de Viviani. Ah, ces discours de Viviani. Il nous ménageait au ministère des jours orageux. En voilà un qui ne composait pas dans la joie. Artiste raffiné, extrêmement sensible, sous des dehors brutaux, et un langage allant parfois jusqu'à la grossièreté. Il avait pour ses discours des tourments à la Flaubert. Non pas qu'il les écrivit, il écrivait encore moins que Valdecrousseau. Mais il est porté dans sa tête, partout, dans sa chambre, au ministère, en promenade, allant même au théâtre où il prétendait que la musique rythmait et facilitait l'éclosion de ses pensées.
Oh, mais c'était un redoutable orateur.
Magnifique.
Redoutable pour ses adversaires.
Tellement que les phrases, sans une ligne d'écriture, étaient achevées dans sa tête avant d'être prononcées, et que son discours participait à la fois de la souplesse d'une chose non écrite et de la pureté d'un texte souvent remis sur le métier. Ma chance a voulu que j'aie une collaboration intime avec trois des plus grands orateurs d'une époque qui en compta beaucoup. Valdec Rousseau, Viviani, Briand, et que j'ai été le témoin quotidien de leur préparation, de leur méthode et de l'état d'esprit dans lequel ils composaient. Parle pas de Jaurès. Lui, c'était le dieu. Pense pas d'ailleurs qu'on ait pu analyser sa méthode. Michel-Ange de leur oratoire, le perpétuel jaillissement de son génie, lui faisait jeter en tout lieu, à toute heure, ses constructions d'avenir qui apparaissaient dans la splendeur du verbe, pour ainsi dire détaché de lui-même, vivant d'une vie propre comme les sublimes figures que l'autre jetait au plafond de la Sixtine. Viviani, lui, faisait plutôt penser avec plus de flamme aux orateurs chantiers de la Restauration, qu'il connaissait bien, qu'il admirait fort. Mais il parlait là où ils écrivaient. On suppose quelle tension d'esprit nécessitait une telle préparation. Aussi, dans les jours qui précédaient ces grandes interventions, supportait-il mal que même ses collaborateurs, même ses collègues vinssent le déranger, et quant au raseur, il s'enfermait chez lui, je devais dépenser toute mon ingéniosité à écarter les rendez-vous et à protéger sa solitude. Ça déchaînait parfois les colères de Clémenceau. « Vous entendez, amenez-moi votre ministre, mort ou vif !» me téléphonait-il. Le tigre ne plaisantait pas avec ses ministres, même avec ceux qui n'aimaient le plus, c'était le cas de Viviani. Une fois même, si Viviani n'était pas mort, il était vraiment malade d'une mauvaise grippe. Or, il devait répondre à une interpellation difficile sur leur peau hebdomadaire, où une partie de la majorité risquait de fléchir. Sur peau hebdomadaire, à ce moment-là, on ne parlait pas de la semaine de 40 heures et de la journée de 8 heures. Et cette petite réforme soulevait des polémiques passionnées. Il fallut que le docteur Vidal témoignât qu'il ne pouvait quitter la chambre que pour aller à l'autre le jour du vote. Bien entendu, il fut excellent. Et Clémenceau, brutal à souhait, froyant sa majorité, après que Viviani l'eût séduite, termina une courte et énergique intervention par ces mots, « Messieurs les radicaux, je vous attends. » Et tandis que dans le cabinet des ministres, nous bouchonnions Viviani, ruisselant de sueur, Clémenceau apaisé et paternel lui dit, « Mon petit, maintenant allez vous coucher et restez dans votre lit tant que vous voudrez. » Du même ton dont il avait dit quelques jours auparavant à Albert Sarrault qui venait de gifler un orateur insolent, « Bravo mon petit, tu viens de signer la feuille de présence.
» Excellente formule.
Je me doute du haussement d'épaules des générations nouvelles d'ailleurs, chargées du lourd fardeau que nos abandons leur ont légué, entendant parler d'un temps où l'éloquence tenait une telle place. Mais voyez-vous, qui me permet de leur dire que ce goût de l'éloquence des années heureuses, le prestige dont jouissaient les grands orateurs, ont eu ce résultat. Il s'est trouvé, Jaurès étant mort. Un Viviani pour magnifier la lutte à son début. Un Clémenceau pour en fanatiser l'achèvement. Des mots nécessaires ont été dits, comme il fallait les dire, que nous n'avons pas entendu en septembre 1939, ni en juin 1940. Pendant ce temps, Clémenceau regardait l'Allemagne dans les yeux, avec un ministre des Affaires étrangères qui lui était docile, M. Pichon. Il avait pris solidement en main notre politique extérieure, un peu humilié depuis Algésiras. Un jour, Viviani était revenu du Conseil des ministres assez préoccupé. La diplomatie allemande, qui s'entendait toujours à merveille à entretenir quelques points de friction, quelques abcès, se réservant de les agrandir ou de les diminuer suivant les besoins, exploitait à ce moment-là un incident minime des déserteurs allemands appartenant à la Légion étrangère avait été appréhendé dans le port de Casablanca. Et le consul allemand ou un employé du consulat qui avait prétendu étendre sur eux sa protection avait été mêlé à une bagarre, arrêté quelques instants, puis relâché. L'Allemagne avait protesté et proposé que le différend fût soumis à la cour d'arbitrage de La Haye. La France accepta, mais alors l'Allemagne demanda qu'avant la décision de la cour, la France exprime ses regrets des atteintes portées aux prérogatives de son consul. Clémenceau refusa. Et il marqua fortement au Conseil des ministres qu'il était résolu à refuser la sentence de La Haye, un point, c'est tout. Quelques-uns de ses ministres avaient bien paru hésiter à s'engager dans cette voie. Mais Clémenceau, comme Valdec Rousseau, n'était pas seulement le président du Conseil. Il était le chef du gouvernement. Et quand, dans son cabinet de la place Beauvau, l'ambassadeur d'Allemagne, devant son refus courtois mais ferme, fit entrevoir la possibilité d'un conflit plus grave et menaça de quitter Paris, Clémenceau lui tendit l'indicateur des chemins de fer. L'ambassadeur se plaisait à Paris, il y resta, il ne devait en partir, ou du moins son successeur, que le 2 août 1914. Cette guerre de 1914 vit revenir au pouvoir, cette fois dans toute sa gloire, un Clémenceau plus vieux, mais toujours ardent. Providentiellement, si on peut parler de providence s'agissant de ce mécréo, il fallut aussi que pour le dernier quart d'heure, le quart d'heure de Nogui, le plus dur à passer, celui qui fait gagner ou perdre, nous ayons eu la chance d'avoir une énergie trempée pendant un demi-siècle d'opposition farouche. Car pendant un demi-siècle, Clémenceau y fut toujours, hormis les 3 ans de pouvoir qui ne l'avaient pas entamé. La guerre l'y avait retrouvé seul, si seul, qu'il lui arriva une aventure assez peu commune à un ancien président du Conseil. Depuis le début de la guerre, dans son journal L'Homme Libre, devenu L'Homme Enchaîné, il critiquait âprement le président de la République, le gouvernement, le haut commandement, les accusant de manquer d'imagination, d'incertitude, d'hésitation. Un jour, il fallut tout de même qu'il porte la question à la tribune du Sénat. Et le Sénat, respectueux du président de la République, du gouvernement, du haut commandement, ne le suffit pas. Il eut 3 voix de majorité. 3 voix. Lui, Clémenceau. L'ancien chef énergique de l'extrême gauche. L'ancien énergique président du Conseil de 1906. Le tombeur de Briand et de Caillaux dans ce même Sénat. Le lendemain, je me trouvais à Paris en convalescence, à la suite d'une opération, suite d'un accident survenu aux affaires de Champagne. Je fus le voir. Ah, son antichambre n'était pas encombrée ce jour-là. Cet homme malade, souffrant, d'une sinusite comme moi-même, battu, plus battu que ne fut jamais n'importe quel ancien chef de gouvernement, cet homme qui aurait dû être découragé, affaissé, ne pensait qu'à remonter à la tribune et à prendre sa revanche.
Cela explique bien des choses.
Quelle leçon d'énergie j'ai prise ce jour-là. Une autre leçon m'avait été donnée dans son antichambre vide, celle de l'ingratitude. C'est le lot commun de tous les hommes politiques, tous à des degrés divers, nous l'avons éprouvé. 3 mois après, Clémenceau remontait à la tribune, puis au pouvoir, c'était sa revanche. Mais il ne pensa qu'à celle de la France. Il avait désiré le pouvoir pour réaliser ce pourquoi il avait vécu. Il eut son plan, il fut à sa hauteur, il eut son climat. Et ce vieillard s'y épanouit dans une étonnante floraison d'arrière-saison. Les préventions tombèrent, les injustices s'apaisèrent, ses états-majors qu'il avait tant combattus, ses chefs militaires, quand il les vit en proie à des angoisses semblables aux siennes, il les défendit devant une chambre impatiente d'en finir et supportant mal ce dernier quart d'heure. Il fut dur, injuste, je le crois, pour Caillaux. Mais pour les combattants du front, cette dureté s'tempéra d'humanité. Dans son petit hôtel de la rue Franklin, que la piété du président Jeanneney et des amis de Clémenceau a laissé tel qu'au jour de sa mort, on peut voir dans un vase, un peu de terre du front, une fleur séchée cueillie dans les tranchées, qui révèle un Clémenceau assez peu connu. On pense à des sensibilités de Médinette, davantage. On pense à ce beau mot du grand Ferry qu'il avait tant et si injustement combattu. Mais Rose pousse en dedans.
C'était Clémenceau des Bouches, la quatrième partie des souvenirs politiques du président Paul Boncour. Vous venez d'entendre La Tribune de Paris, une émission du journal parlé de la radiodiffusion télévision française, réalisée par Émile Dana et Raymond Thévenin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 1er février 1957. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.